Il est 7h.
Là, il se passe quelque chose actuellement en Moselle que nous sommes en train de regarder de près, mais qui nous impose de quelque part préparer le pire et se préparer pour la semaine prochaine à augmenter nos capacités.
La Moselle se prépare au pire. C'est en effet dans ce département que l'on compte le plus de cas de variants sud-africains et brésiliens. Olivier Véran sera sur place aujourd'hui. Un débat finalement moins tendu que prévu. Marine Le Pen était face à Gérald Darmanin hier soir sur France 2. La candidate du RN voulait surtout afficher sa crédibilité en vue de la présidentielle. L'opération Europe 1 solidaire avec les jeunes. On met l'accent ce matin sur les solutions pour les aider en temps difficile, comme en Anjou, où on propose des gîtes aux étudiants pour leur permettre de changer d'air. Encore un froid glacial dans une bonne partie de la France. Jean Castex était en maraude avec le SAMU dans les rues de Paris la nuit dernière. Et puis dossier consacré à l'écoute de la musique en streaming, autrement dit sur des plateformes comme Spotify ou Deezer. Est-ce que les artistes y trouvent leur compte? Réponse à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, l'Angleterre post-Brexit, la Bourse de Londres perd sa place de leader européen. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. Michael Jérémiaz, champion paralympique de tennis fauteuil, et son projet de film sur le sport et le handicap, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais que se passe-t-il en Moselle? C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a mis l'accent sur la situation de ce département hier soir. Plusieurs centaines de cas de variants brésiliens et sud-africains ont été décelés ces derniers jours.
Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Le ministre de la Santé est attendu aujourd'hui en Moselle. Quelle est concrètement la situation?
Alors la situation inquiétante dont a parlé Olivier Véran hier soir au sujet de la Moselle, c'est 300 cas de variants sud-africains et brésiliens au cours des 4 derniers jours. C'est vraiment beaucoup, nous dit le chef des urgences de Metz, le docteur François Braun. Il faut, dit-il, que l'hôpital se tienne prêt.
Là, il se passe quelque chose actuellement en Moselle que nous sommes en train de regarder de près, mais qui nous impose de quelque part préparer le pire et se préparer pour la semaine prochaine à augmenter nos capacités.
Qu'est-ce que vous pensez d'un reconfinement local ?
Un reconfinement local, sur le papier, ça peut sembler très séduisant. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillent en transfrontalier, où une grande partie des soignants luxembourgeois viennent de Moselle, on imagine mal interdire ces soignants de rejoindre leur hôpital au Luxembourg, parce que le système luxembourgeois ne tiendrait pas. Donc peut-être une fausse bonne idée, oui.
Alors pourquoi les variants explosent-ils en Moselle? Personne n'a pour l'instant la réponse. Le hasard d'un cluster, peut-être. La frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg, peut-être. C'est d'autant plus étonnant en tout cas qu'ailleurs en France, les indicateurs sont plutôt bons. Exemple, juste à côté, la Meurthe-et-Moselle, avec un taux d'incidence en très forte baisse.
Arthur Mbaché en direct de Strasbourg pour Europe 1. Arthur, vous parliez de l'hypothèse d'un reconfinement local. C'est en tout cas ce que souhaite le maire de Metz, François Grosdidier. Plus globalement, la circulation du virus reste stable. Environ 21 000 cas positifs en 24 heures, dans la moyenne de ces derniers jours. Signe encourageant, les nouvelles entrées à l'hôpital sur une semaine sont repassées sous la barre des 11 000.
Immigration, séparatisme, droit du sol, sécurité, des thèmes abordés lors du débat d'hier soir sur France 2 entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen.
Et pas d'éclat de voix, quelques pics tout de même échangés entre le ministre de l'Intérieur et la présidente du RN. Un débat que vous avez regardé pour nous, Louis Dragnel. Qu'est-ce que vous en retenez?
Eh bien, on a vu deux débatteurs tendus, mais un débat apaisé. Clairement, Marine Le Pen a tout fait pour montrer qu'elle avait travaillé sur la forme pour afficher sa crédibilité, terminer les propos excessifs et les longues tirades. Elle a même laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle était prête à certaines conditions à voter le projet de loi contre le séparatisme défendu par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a été offensif et n'a pas hésité à reconnaître des points d'accord avec Marine Le Pen sur plusieurs diagnostics, notamment sur les dérives de l'islam en France, quitte à dépasser Marine Le Pen sur sa droite en lui reprochant d'être quasiment dans la mollesse.
Il faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Je suis plus dur que vous, mais ça ne m'étonne pas, parce que comme vous êtes, il y a une Marine Le Pen des plateaux et une Marine Le Pen des parlements.
Point négatif pour Marine Le Pen, elle a été mise en difficulté en évoquant les chiffres de l'immigration. Gérald Darmanin, de son côté, qui était plus à l'aise, a donné l'impression de vouloir la piéger à tout prix. En fin de compte, chaque camp affiche sa satisfaction. Marine Le Pen considère avoir donné le ton de la campagne présidentielle et Gérald Darmanin estime avoir fait le boulot pour essayer de restaurer la crédibilité d'Emmanuel Macron sur les sujets de sécurité.
Merci Louis de Ragnel. Et puis dans le cas du projet de loi séparatisme, l'Assemblée a voté hier soir un amendement gouvernemental sur l'école à la maison. Il prévoit une période de transition jusqu'en 2024 pour les familles sous sous réserve de contrôle.
7h05 sur Europe 1, moins 8 en ressenti. Jean Castex a bravé la nuit glaciale pour suivre une équipe du SAMU en maraude dans les rues de Paris.
Ouais, le chef du gouvernement, accompagné de la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, a assisté aux discussions avec des sans-abri pour leur proposer une place au chaud dans un hôtel. Plusieurs d'entre eux ont refusé, mais d'autres aimeraient bien être hébergés. Ils n'arrivent pas à joindre le 115. Pour Fabrice et Alex, le couvre-feu n'arrange rien.
À partir de 18h, c'est mort, ça y est, on est libre à nous-mêmes. Là, il n'y a plus personne. Après le couvre-feu, c'est une galère. Beaucoup plus de solitude parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Du coup, les gens ne viennent pas nous voir. Et avant le confinement, les gens ils venaient nous voir le soir, ils discutaient avec nous, ils buvaient un coup ensemble. Et là, il n'y a plus de tout ça, c'est fini.
Tiens, on est sur une galère à téléphoner au 115. Parfois, on peut attendre une heure et demie au téléphone. On recommence tous les jours. C'est dur, c'est franchement.
Pour la neige, on a mis des cartons sur nous. J'avais pas trop envie de dormir parce que je savais pas qu'on pouvait se lever le lendemain matin, quoi. Après, il y a encore de l'humanité, il y a des gens qui nous font des courses, il y a des gens qui nous ont ramené une grosse bâche. S'il neige, on pourra l'installer là au cas où. Il y a encore des bonnes personnes.
Témoignage recueilli par Théo Manval. Si vous prenez la route, soyez en tout cas très prudent. Hein. Ce matin, 4 départements de l'Ouest sont en alerte rouge, neige verglas, et particulièrement à cause des pluies verglaçantes, la Vendée, les Deux-Sèvres, l'Indre et la Vienne. Interdiction de rouler pour les camions dans 20 départements.
Télétravailler, c'est bien, mais ne pas perdre au change, c'est mieux. Chez SFR, par exemple, les salariés qui restent à la maison n'ont pas de ticket restaurant depuis mars 2020.
La CFDT a d'ailleurs assigné l'opérateur en justice, mais SFR n'est pas le seul à supprimer les tickets resto. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Concrètement, quelle est la règle ?
Eh bien, cette pratique est tout simplement illégale, puisque si vous avez droit à des tickets restaurants, c'est qu'il s'agit d'une disposition de votre contrat de travail qui s'applique autant à distance qu'en présentiel. Pour ceux dont le contrat n'offre pas cette possibilité, là c'est plus compliqué. L'entreprise n'a par exemple aucune obligation de compenser l'absence de restaurants d'entreprise et pourtant, les repas à la maison sont souvent plus coûteux qu'à la cantine, raconte Nicolas, ingénieur informatique.
Les cantines collectives sont généralement subventionnées par les CE. Donc du coup, on arrive à manger un repas complet pour 2-3 euros. Alors que quand on est à la maison, pour manger correctement, il faut plutôt compter 4-5 euros, voire un peu plus.
Au total, chaque mois, ça représente un peu plus de 40 euros supplémentaires pour Nicolas. Et c'est pour les employeurs un véritable casse-tête, selon Éric Chevet, vice-président de la CPME.
Il y a des frais inhérents au télétravail. C'est une question qu'il faut considérer. Mais très clairement, nous avons identifié comme un problème potentiel.
La question de la restauration pourrait donc corser un peu plus les négociations au sein des entreprises, déjà parfois houleuses en matière de télétravail.
Élise Dangean.
Dans un instant sur Europe 1, l'entraîneur Marcelo Bielsa qui demande une somme faramineuse à son ancien club de Lille. Et les artistes, arrivent-ils à se rémunérer avec les écoutes en streaming ? Question ce matin. Mais d'abord, notre semaine solidaire sur Europe 1 pour aider la jeunesse avec cette initiative en Anjou pour remonter le moral des étudiants.
Et oui, les Gîtes de France leur proposent des logements gratuits, histoire de changer d'air pour tous ceux qui passent leur temps rivés à leur ordinateur. Reportage à Saint-Rémy-la-Varenne dans le Maine-et-Loire, Charles Guyard.
Bonjour.
Bonjour.
Après une petite demi-heure de route, Sébastien et Samuel arrivent au presbytère. C'est le nom d'un gîte rural adossé à une église.
Voilà, c'est une bonne route.
Oui. Changement de décor hein, pour ces deux étudiants à Angers qui ont rarement l'occasion de sortir de chez eux.
Il n'y a pas de vie étudiante, donc on n'a que les cours, pas d'activité.
On reste tout le temps enfermé devant l'ordi, on explose un peu.
Et c'est pour casser cette morosité que l'Office du tourisme du vignoble angevin a lancé l'opération Garde le moral, vient à la campagne, en offrant une ou deux nuits aux étudiants dans l'un des 20 gîtes partenaires. Marie Bernaudot, chargée d'animation.
L'objectif est de proposer de courts séjours à des étudiants afin de les aider à sortir de cette détresse.
Une parenthèse au vert, loin des quelques mètres carrés occupés au quotidien par Delphine et Christian, qu'on retrouve eux au fourneau, dans une cuisine qui fait quasiment la taille de leur studio.
Là, mon lit, il est à peine plus grand que ça.
On profite d'avoir de l'espace, pas tous les jours qu'on a une cuisine comme ça.
Le gérant Philippe Tussaud n'a pas hésité, lui, à ouvrir gratuitement les portes de son gîte, où une nuit est d'ordinaire facturée 21 euros.
J'ai beaucoup entendu parler des problèmes de la jeunesse, je me suis dit, je peux faire quelque chose là.
Et pour l'heure, 150 étudiants se sont inscrits pour cette opération qui se poursuit jusqu'au 31 mars. Saint-Rémy de Varennes, Charles Guyard, Europe 1.
Et rappelons-nous que vous pouvez retrouver sur notre site europe1.fr plus de 20 000 offres d'emploi pour les jeunes. Marcelo Bielsa face à Lille. Match retour pour l'ancien entraîneur qui n'a pas digéré son licenciement pour faute grave en 2017.
Et oui, il attaque le LOSC devant les prud'hommes aujourd'hui pour rupture de contrat abusive et il réclame une somme colossale, Lionel Gougelot.
19 millions d'euros, jamais une telle somme n'avait été réclamée dans le foot français par un entraîneur débarqué de son club. Marcelo Bielsa se base sur un accord qu'il avait conclu avec ses dirigeants, contrat qui prévoyait le paiement de l'intégralité de ses salaires en cas de séparation, et ce quel que soit le motif. problème pour El Loco. Ce parachute doré n'avait pas été retenu dans le contrat définitif déposé à la Ligue professionnelle. Le LOSC refusera donc d'indemniser son entraîneur. Ce sera donc à la justice de dire quel contrat s'impose finalement dans le conflit entre le LOSC et Bielsa, mais elle devra aussi se prononcer sur la réalité de la faute grave de l'entraîneur. Difficile à démontrer, elle n'est pratiquement jamais retenue par les juridictions. L'enjeu est quand même capital pour le club nordiste, mais par le jeu des appels, voire de la cassation, si le LOSC devait être effectivement condamné à verser 19 millions d'euros à Marcelo Bielsa, ce ne sera sans doute pas avant plusieurs années. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis le foot sur le terrain, il restait deux rencontres de Coupe de France. Hier soir, Sochaux s'est qualifié pour les 16e en éliminant Saint-Etienne 1-0, qualifié aussi Angers face à Rennes 2-1. Sachez aussi que le Bayern Munich a remporté le Mondial des clubs grâce au but d'un Français, Benjamin Pavard, 1-0 contre les Mexicains, les Tigres de Monterrey.
Ce soir, on va récompenser les meilleurs artistes du moment. 36e édition des Victoires de la Musique, des artistes qu'on écoute de plus en plus souvent sur les plateformes. Il faut dire qu'on ne peut plus les voir en concert en ce moment, les plateformes
oui.
Spotify, Deezer ou Apple Music.
Ouais, le streaming qui connaît d'ailleurs une croissance de 20% par an. On va ouvrir ce dossier avec vous, Angèle Châtelier. Les artistes arrivent-ils à tirer leur épingle du jeu? Mais d'abord, comment ça marche, Angèle? Où vont les 10 euros que je donne tous les mois à Spotify ou à Deezer?
Eh bien déjà, 3 euros sont prélevés par les plateformes. 7 euros vont donc aux artistes et pas seulement ceux que vous avez écoutés. En tout cas, pas seulement eux. C'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, vos 7 euros vont dans un pot commun et sont reversés proportionnellement au nombre d'écoutes d'un artiste. Donc, les plus populaires. Et qui sont-ils? Eh bien, ce sont les rappeurs. Écoutez des plus jeunes, ce que nous explique Louis-Alexis de Gemini, directeur général de Deezer.
Un jeune de 15-25 ans en moyenne écoute jusqu'à 1000 à 1500 fois des chansons par mois, tandis qu'un profil plus âgé, un abonné plus âgé, écoute plutôt 400, 500, 600 streams par mois. Donc mécaniquement, les artistes écoutés par nos clients les plus jeunes sont favorisés parce que leur part de marché augmente grâce aux écoutes de leurs fans.
Mais là, ils touchent combien les artistes concrètement, Angèle?
Eh bien honnêtement, c'est impossible de le savoir, ça dépend des contrats que les artistes ont signés avec leur label, mais ce que je peux vous dire, c'est que 90% d'entre eux reçoivent moins de 1000 euros par an, même s'ils ont été écoutés des centaines de milliers de fois, comme le groupe de rock Last Train, ils viennent d'Alsace, leurs chansons ont été écoutées des millions et des millions de fois, et pourtant, ce n'est pas ça qui les fait vivre. Écoutez le leader du groupe, Jean-Noël Scherrer.
Sur un groupe comme le nôtre, l'économie elle se situe dans le live. La vente de disques rapporte peu, le streaming rapporte encore moins évidemment. Ça a un poids infime par rapport à une vente de disques en merchandising après un concert. Par exemple, il faut un nombre de streams vraiment considérable avant de pouvoir considérer ce nombre-là comme une vente de disques.
Très étonnant hein, ce chiffre que vous donnez, Angèle, hein, moins de 1000 euros par an pour 90% des artistes. Alors, quelle pourrait être la solution pour que finalement tout le monde y trouve son compte?
Bien, il y en a une dont le principe est simple, vos 10 euros iraient aux artistes que vous avez écoutés. Hélène, j'imagine que pour vous, ce serait Prince, Mathieu.
Bien joué.
Mathieu, les Foo Fighters, hein, voilà.
Par exemple, ouais.
Alors, si on passe à un tel modèle, sachez que les groupes de rock verraient leurs revenus augmenter de 13%, ceux qui font de la musique classique de 26%. En revanche, les rappeurs perdraient 4 millions d'euros par an environ. Ce nouveau modèle est une piste d'étude, mais soutenue notamment par Deezer et par le ministère de la Culture. Ça a donc beaucoup de chances d'aboutir.
Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
Attendez, Hélène Zélanie a le droit à Prince et moi, j'ai pas le droit au Foo Fighters sur Europe 1 le matin.
C'est je suis privilégié, qu'est-ce
c'est
que
pas
vous
juste. Ah, merci les copains. Ils sont réactifs, on réagit.
Carrément.
On n'écoutera plus les plateformes de la même manière. Pour le coup, après
totalement.
Cette enquête d'Angèle Châtelier à retrouver sur Europe 1.fr. Bien sûr, merci beaucoup Hélène, c'était le journal de 7h. Il est 7h14 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
De la musique ce matin, on est vendredi, les Victoires de la Musique ce soir, beaucoup de musique ce matin. Il s'est imposé comme un patron de la chanson française, un grand frère pour les jeunes artistes et il sera ce soir en live à la scène musicale.
Petite princesse, ma beauté, ma promesse, ma petite faiblesse, ma plus belle histoire de fesses.
Benjamin Biolay, l'un des favoris, nommé 3 fois pour les Victoires de la Musique. On va parler de ses chansons, de sa carrière et du contexte sanitaire qui met la culture sous cloche. Benjamin Biolay, invité du Tête à Tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage écho, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est une des conséquences les plus spectaculaires et concrètes du Brexit. La City de Londres a perdu en quelques semaines à peine son statut de première place boursière pour les actions européennes.
Oui, alors le journal de la City, le Financial Times, qui en a fait sa une, a du mal à s'en remettre, on le comprend. C'était d'ailleurs l'article le plus lu sur son site. Londres n'est plus la première place boursière européenne. La City, cœur historique de la finance européenne, s'est fait détrôner par Amsterdam. La dégringolade est sévère, rapide en janvier. Près de la moitié des volumes de transactions sur les actions européennes ont été transférés de Londres vers des bourses d'Europe continentale. Amsterdam, donc, où les volumes ont été multipliés par 4, mais aussi Paris et Francfort.
C'est la conséquence directe du fait que la finance avait été sortie des négociations sur le Brexit.
Exactement. Alors, en matière financière, le Brexit s'est traduit par un no deal. Ça veut dire que l'Europe n'a accordé aucune équivalence aux services financiers opérant à Londres pour qu'ils puissent exercer leurs activités sur le continent. La finance a beau peser deux fois plus que la pêche dans l'économie britannique, Londres a renvoyé le sujet à plus tard. Boris Johnson a préféré se battre pour les pêcheurs plutôt que pour les traders. Mais le résultat, c'est que les acteurs des marchés qui négocient les actions européennes se sont rabattus sur le continent. Seule solution pour garder leurs clients. À Londres, on espère évidemment que ces capitaux qui ont franchi la Manche à toute vitesse reviendront aussi vite. Des discussions sont en cours à Bruxelles pour trouver enfin un accord en matière de services financiers. Mais les Européens ne sont pas du tout pressés. Ils voient même beaucoup d'avantages à engranger ces bénéfices sonnants et trébuchants.
Oui, et je me dis que c'est très politique quand je vous entends quand même. C'est un slogan presque. Les pêcheurs avant les traders, quand on le dit comme ça. Alors pourtant, on n'imagine pas que la City laisse partir autant d'activités sans réagir.
Alors la City, non, effectivement, a une stratégie possible face à l'Europe, c'est de jouer à fond la déréglementation, de devenir, selon l'expression de Boris Johnson, un Singapour sur la Tamise, autrement dit, une place financière très accueillante, avec des réglementations plus souples qu'en Europe, il y a de la marge, et même une fiscalité moins lourde, il y a aussi de la marge. Le ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, qui vient de Goldman Sachs, la grande banque, y travaille. Il a même promis un Big Bang. Venez chez nous, les normes sont moins sévères, tel est le credo. Reste que ça ne résout pas tout. Les clients européens resteront régulés par des instances européennes. Et même si Londres parvient à limiter les dégâts, le Brexit est quand même en train de porter un vrai coup à la domination historique de la City sur la finance européenne.
Merci Nicolas Barré. Il est 7h18 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le président de Djibouti est reçu à l'Élysée ce matin.
Ismaël Omar Guelleh ne sera pas dépaysé. Sa première visite, c'était à l'indépendance. Emmanuel Macron n'était pas né. Giscard était président, lui patron de la police. Il accompagnait son oncle, le chef du nouvel État. Ensuite, il lui a succédé. Et il est revenu sous Mitterrand, sous Chirac, avec des beaux et des bas, sous Sarkozy, sous Hollande. Il n'a pas l'intention de s'arrêter à Emmanuel Macron. À l'automne, il sera réélu pour 5 ans. L'opposition boycotte le scrutin joué d'avance. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le temps? Eh bien, la mondialisation. Djibouti, c'est un port, un immense bidonville et une base militaire. Le point d'appui stratégique de la marine française en mer Rouge, où le porte-avions fait escale, où les troupes de choc s'entraînent à la dure, où l'armée de l'air fait la police du ciel. Mais depuis 20 ans, les Français ont perdu leur monopole. Ils ont remballé la moitié de leurs effectifs. La Légion a abandonné le camp Le Monnier et 5000 Américains s'y sont installés. L'armée japonaise a pris ses quartiers pour lutter contre la piraterie dans l'océan Indien, les Italiens aussi, et puis les Chinois ont débarqué en force.
Ils ont construit à Djibouti leur seule base permanente à l'étranger.
La cité-État est désormais le carrefour de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Les Chinois ont vu l'intérêt stratégique, la passerelle vers l'Éthiopie. Au large passent les tankers, au fond les réseaux de câbles sous-marins. Le couloir maritime est l'un des plus fréquentés au monde. Depuis 20 ans, Pékin finance les grands chantiers, notamment la reconstruction du chemin de fer qui était la gloire coloniale du territoire des Afar et des Issa. Désormais, les chefs de gare sont chinois. Deux sénateurs américains ont tiré la sonnette d'alarme. Ismaël Omar Guelleh vend son pays aux Chinois. Le président est riche, Djibouti surendetté. Ici comme ailleurs, les Chinois colonisent par la dette.
Il vient réclamer l'aide à Emmanuel Macron.
Il veut renégocier le loyer. 40 millions de dollars, c'est pas cher payé, la liberté d'action des forces françaises. L'accord de défense va être renouvelé. Mais il réclame surtout que l'ancien colonisateur investisse pour ne pas rester seul face à Pékin. Le problème, c'est la corruption du régime. C'est Ismaël Omar Guelleh lui-même. Il ne gêne pas les militaires, mais il fait fuir les chefs d'entreprise.
Merci Vincent Hervouet, 7h21 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Tout de suite, le champion paralympique Mickaël Jérémiaz qui cherche des financements. Son projet, un film sur l'émancipation des personnes handicapées par le sport, le chemin parcouru et le chemin qui reste. L'édito sport de Virginie Fulpin dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On parle beaucoup de l'engagement des sportifs. Ce matin, vous voulez mettre en lumière le projet de Mickaël Jérémiaz, l'ancien champion de tennis fauteuil, qui prépare un film pour raconter comment le sport a changé la condition des personnes handicapées depuis 150 ans. Et pour vous, ce film doit avoir le jour. On peut tous y contribuer. Et on fera avancer l'égalité.
Ouais, l'héroïne sportive de la soirée d'hier, c'est Marie-Amélie Le Fur. La Française a battu son record du monde de la longueur, 6,14 m. C'était au meeting de Dubaï, en pleine préparation pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Marie-Amélie Le Fur a déjà conquis 3 médailles d'or aux Jeux. Une immense athlète handisport, une immense championne tout court. Elle œuvre aussi pour Paris 2024. Et aujourd'hui, Marie-Amélie Le Fur est un exemple d'accomplissement, de réussite pour tout le monde et notamment pour les personnes handicapées. Et elle nous montre le chemin parcouru depuis 150 ans. Et c'est justement sur ces 150 ans d'histoire douloureuse que veut revenir Mickaël Jérémiaz dans le film qu'il prépare. De l'ombre à la lumière, ce sera le titre. Il va nous emmener dans un road movie en fauteuil à travers le monde, à la rencontre des grands noms du parasport. Au début du XXe siècle, les personnes handicapées pouvaient être exhibées comme des bêtes de foire, hein, il faut s'en rendre compte. Mais faire du sport, ça non, ils n'avaient pas le droit, surtout pas, c'est pas pour vous. Alors comment ont-ils lutté pour avoir le droit d'être des sportifs? Comment, en 150 ans, on est passé de ces exhibitions inhumaines à une reconnaissance pleine et entière des Jeux paralympiques? Mickaël Jérémiaz veut répondre en nous dévoilant des histoires sportives et humaines qu'on ne connaît pas forcément. Le sport est un puissant libérateur, il peut contribuer à améliorer la vie et à changer notre regard sur le handicap.
La société elle-même a évolué en 150 ans, heureusement, mais il y a encore du chemin à faire.
Bah, si je caricature, notre regard se pose sur les athlètes paralympiques une fois tous les 4 ans et ils se détournent le reste du temps. Bien sûr qu'il y a encore de nombreux progrès à faire. Et si on veut que notre société change, que l'égalité progresse, bah, ça passe par les plus jeunes. Mickaël Jérémiaz tient beaucoup à ce que son film, à terme, soit projeté dans les écoles, pour qu'on parle du handicap sur les bancs de la classe, qu'on connaisse l'histoire de ces sportifs qui ont tant lutté pour leur reconnaissance. On ne doit plus voir les personnes handicapées comme des super-héros ou des victimes, juste comme des êtres humains. Pour moi, ce projet, il est d'utilité publique. Les sportifs sont nombreux d'ailleurs à le relayer, et tant mieux, c'est ça aussi l'engagement dans le sport. On peut tous participer financièrement sur la plateforme Ulule pour que ce film voie le jour, même très modestement évidemment. Je ne peux que vous y encourager.
C'est fait, l'édito sport aussi qui soutient cette initiative ce matin. Merci Virginie Fulpin. Une note positive, Virginie, ce matin. Une bonne nouvelle. Aux États-Unis, à New York, les grandes salles de spectacle et les stades de 10 000 personnes minimum pourront rouvrir avec une jauge de 10% de leur capacité d'accueil à partir du 23 février. C'est dans une dizaine de jours. C'est presque demain. Hein. C'est le gouverneur de New York qui l'a annoncé hier, une première après presque un an de fermeture. Ce qui veut dire que les supporters des Knicks, par exemple, pourront entendre ça à nouveau. C'est le club de basket de New York. Cette ambiance tellement américaine et le Madison Square Garden avec 2000 spectateurs. C'est pas non plus
ouais, l'affluence enfin bon, folle. Ça fait quand même du bien.
Ça fait du bien de se dire qu'on va peut-être pouvoir, enfin voilà, la lumière au bout du tunnel, tout ça. Le Madison Square Garden qui va rouvrir ses portes. Je vous tiendrai au courant pour le Parc des Princes. Merci Virginie Fulpin, 7h26 sur Europe 1. Et on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Souvenez-vous, hier, je vous proposais une chronique pas piquée des hannetons. Eh bien, ce matin, et pour faire la moyenne, voici une chronique lambda.
Ah, lambda. Quelle est l'origine du mot lambda? C'est peut-être un mot latin, sud-américain?
Non, je crois que vous confondez, Mathieu, avec la lambada. on ne peut pas ça vous en vouloir. On a tous besoin de soleil et de danser collé serré. Lambda est tout simplement une lettre de l'alphabet grec. Si on dit de deux choses qu'elles sont l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'elles sont le commencement et la fin. Un être alpha est un être supérieur, il arrive le premier. La lettre lambda, c'est la lettre L. Elle est au milieu, en 11e place, sans charisme, sans grandeur. Bref, elle est quelconque. Traditionnellement, dans le langage familier de l'école polytechnique, on désignait la côte lambda comme l'élève du milieu, celui qui ne pouvait pas frimer d'être le premier, ni avoir la sympathie qu'ont parfois les derniers, les cancres. Et pourtant, lambda pourrait frimer. Einstein, en 1917, rajoute une constante appelée lambda à sa théorie de la relativité générale, se rendant compte que l'univers est soit en expansion, soit en contraction, il est donc dynamique. Rassurez-vous, je n'ai rien compris à ce que je viens de vous dire. lambda quelconque. Terminons avec une citation plus accessible. Par peur d'être quelconque, j'ai fini par n'être rien et c'est signé Cioran.
16h tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël.
Aujourd'hui, on réunit la créature du docteur Frankenstein, le comte Dracula, inspiré d'un personnage qui a existé en vrai, et Shrek. Leur point commun, de sacrés monstres. N'ayez pas peur, Mathieu.
À tout à l'heure, 16h. 7h28 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Cabrol et nous avons froid.
Oui, bah froid, ça paraît logique, mais les températures, les gens profitent pour vous les donner. Moins 15 sous abri, hein, Mulhouse, moins 11 en Alsace, Strasbourg et à Colmar, moins 10 à Langres, moins 7 à Nancy, moins 5 à Lille, moins 4 en banlieue parisienne, moins 3 à Paris, sous abri, moins 3 à Paris, moins 8 en ressenti, hein, moins 2 à Caen, moins 1 à Rennes, 0 à Clermont-Ferrand, 6 à Cognac, 9 à Toulouse et 10 à Bordeaux, toutes des températures sous abri. Le plus dangereux en ce moment, c'est ce qui se passe en Vendée, dans les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre. Vigilance rouge, c'est rare, ça veut dire qu'il ne faut pas sortir de chez soi, quasiment. Le danger, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce verglas qui s'est épaissi. L'épaisseur de verglas, qui en général sur les routes que l'on peut traiter, se situe entre 2 et 5 mm. En ce moment, cette épaisseur est entre 5 mm et 1 cm. Donc le traitement est extrêmement difficile. Mais il y a aussi la glace sur les fils électriques et sur les arbres. En tombant, la pluie gèle instantanément et s'accumule. Le poids devient tellement important, devient insupportable, les fils s'arrachent et les arbres s'écroulent sous le poids ou même peuvent se déchirer en deux, se diviser en deux, tellement le poids est important. Donc vous voyez que ce phénomène est rare, mais extrêmement difficile à vaincre. Nous allons maintenant parler des autres régions de France, sec, mais parfois ensoleillé, avec du gel sur le nord, la Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, région parisienne, Normandie, Bourgogne, Berry, Orléanais, Franche-Comté. Ce ne sera pas trop mal dans ces régions, surtout sur Paris, avec du soleil et avec des températures glaciales. Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes et Massif central, ce sera mieux cet après-midi. Ensuite, sur la région Rhône-Alpes, attention, beaucoup de neige, 5 à 10 cm probablement dans l'après-midi sur cette partie de la France.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Quand il va faire très très froid, ces gouttelettes ou ces aérosols, elles vont tomber au sol. S'il fait très chaud et sec, elles vont s'évaporer.
C'est une découverte française qui va peut-être bouleverser notre gestion du Covid. La température et l'humidité peuvent avoir une influence sur la circulation du virus. Le jour ou jamais, pour Anticor, Matignon doit décider aujourd'hui si l'organisation anticorruption pourra encore déclencher des enquêtes judiciaires. Dans ce journal aussi, les victimes collatérales des stations de ski au ralenti. Et puis les victoires de la musique ce soir, une fois n'est pas coutume, ce sera sans public.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, son regard décalé sur l'actualité. Et justement, les victoires de la musique, il est nommé 3 fois, il figure parmi les favoris. Benjamin Biolay, invité exceptionnel du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis le début de la pandémie, on s'est souvent interrogé sur l'influence du climat sur la circulation du Covid. Et bien, des scientifiques étudient en ce moment le rôle de la température et de l'humidité sur la transmission du virus et ils commencent à avoir des résultats. Victor Dolande.
C'est un temps à Covid, ça vous ne trouvez pas ? Voici le genre de discussion qu'on aura peut-être dans quelques mois. Et pour cause, des chercheurs français ont réussi à trouver un lien direct entre les contaminations et la météo. En étudiant les gouttelettes qu'on émet lorsqu'on tousse et qui contiennent du virus, ils se sont rendus compte d'une chose, la durée pendant laquelle ces gouttelettes restent en suspension dans l'air et ont donc plus de risques de contaminer quelqu'un. Cette durée dépend des températures et de l'humidité, comme l'explique Alix Roumagnac, président de Prédic Service, filiale de Météo France.
Quand il va faire très très froid, ces gouttelettes ou ces aérosols, elles vont tomber au sol. S'il fait très chaud et sec, elles vont s'évaporer. Et en fait, on a un domaine intermédiaire qui se situe en gros entre moins 2 degrés, 6, 7 degrés, entre 60 et 90% d'humidité, où ces gouttelettes ont tendance à rester en suspension et donc potentiellement être ouvert à la transmission.
Ces recherches, suivies de très près par le ministère de la Santé, vont même plus loin. Une application sur la météo du Covid est en préparation. Elle permettra d'ajuster au mieux les recommandations sanitaires en fonction des risques selon les régions et même selon les heures de la journée.
Les explications de Victor Dolande. Olivier Véran est attendu en Moselle aujourd'hui alors que la situation épidémique est jugée inquiétante dans le département. Les variants sud-africains et brésiliens du virus circulent activement. Plus de 300 cas auraient été recensés au cours des 4 derniers jours. Le maire de Metz demande un reconfinement local.
L'association anticorruption Anticor retient son souffle. C'est aujourd'hui dernier délai que le gouvernement doit renouveler ou non l'agrément qui l'autorise à saisir un juge pour déclencher des enquêtes judiciaires.
Depuis 10 ans, Anticor a initié ou participé à 200 procédures nationales ou régionales. Mais alors que l'agrément de l'association est sur le point d'expirer, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé. Guillaume Biais.
Ce devait être une formalité, mais elle a viré au bras de fer. Pour voir son agrément renouvelé, Anticor est notamment sommée depuis des mois de fournir les noms de ses donateurs. Pour elle, c'est hors de question. D'ailleurs, cette demande est illégale, vient d'estimer la CNIL. Selon Elise Van Beneden, la présidente d'Anticor, ses bâtons dans les roues de l'association sont une forme de représailles.
Là, je pense très clairement qu'on veut nous faire taire. En fait, Anticor est une association qui dérange. C'est une petite association, mais finalement, on s'est constitué partie civile. Donc, on a saisi un juge d'instruction. Dans l'affaire Colère, dans l'affaire Ferrand, ce sont des affaires qui, sans Anticor, n'auraient pas existé. Elles avaient été classées par le parquet. Donc Anticor est intervenu en disant « bah non, ces affaires, il faut qu'elles soient jugées » et a saisi un juge d'instruction. Donc bien évidemment, Anticor peut agacer le pouvoir, mais en même temps, c'est notre rôle. En même temps, c'est complètement paradoxal d'avoir à demander au gouvernement le renouvellement d'un agrément qui nous permet éventuellement de porter plainte quand on pense qu'il y a des infractions qui ont été commises.
Anticor a transmis hier soir ses dernières réponses aux renseignements demandés. Si son agrément n'est pas renouvelé, sa présidente saisira dès lundi le tribunal administratif.
Gérald Darmanin a proposé une protection rapprochée au professeur de philosophie de Trappes qui était, selon ses propos, victime de propos haineux depuis qu'il avait défendu Samuel Paty dans un texte, une lettre ouverte dans laquelle il dénonçait l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme. 5 personnes interpellées dans différents départements en début de semaine seront jugées à Paris en juin pour harcèlement moral ou menace de mort à l'encontre de Mila, cette jeune fille iséroise qui avait publié une vidéo polémique sur l'islam en novembre. Aux États-Unis, la parole est à la défense aujourd'hui au procès en destitution de Donald Trump. Ses avocats tenteront de contrer l'argumentaire des procureurs démocrates. L'ancien président américain est accusé d'incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Une tragédie sans aucun lien avec lui, selon ses avocats.
Coup d'envoi des vacances d'hiver pour la zone C ce soir. Toujours sans remontée mécanique dans les stations de ski.
Et outre la fermeture des remontes-pentes et des télésièges, c'est tout l'écosystème des stations qui est bouleversé par l'absence des skieurs, car de nombreuses professions dépendent indirectement de ces vacanciers. Jean-Luc Bougeon.
Il s'appelle James, il est taxi à Bourg-Saint-Maurice et il n'a jamais connu cela. Passer ses journées à attendre d'hypothétiques clients devant la gare, alors qu'en temps normal, c'est un flot ininterrompu de vacanciers qui débarque ici en février.
Là aujourd'hui, j'ai rien fait. Pas de clients, pas de réservation. Ma première course que j'ai, c'est jeudi soir, quoi, 23h08. Sur le mois de décembre, j'ai fait moins 90. Là, janvier, je suis à moins 80. Et puis au mois de février, on sera peut-être moins 70. Ça va être très compliqué, quoi.
Et même les médecins sont touchés dans le cabinet médical de la station de la Plagne. La salle d'attente est vide, inimaginable pour le docteur Bruno Marie.
Habituellement, on est 3 médecins à travailler. Et là, comme vous le voyez, je suis tout seul à travailler. Il n'y a aucun patient à 17h, l'heure de fermeture des pistes habituelle à cette période où le cabinet est plein de patients. Et là, il n'y a personne. Aujourd'hui, j'ai dû faire 11 consultations, alors qu'habituellement, à cette période, c'est entre 60 et 80. C'est très, très démoralisant. On ne fait pas ce pourquoi on est fait, quoi. Et c'est une énorme perte des recettes de 95 à 96%.
Également touché, les ventes de vin et de fromage de Savoie en baisse de 30 à 40%. C'est donc bien toute l'économie de la montagne très dépendante de ces 4 mois d'hiver, qui est aujourd'hui lourdement pénalisé. La Plagne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
La 36e cérémonie des Victoires de la Musique, ce soir, en direct de la scène musicale à Paris.
Et parmi les nommés, Benjamin Biolay, Pomme ou encore Aya Nakamura, une soirée inédite sous temps de Covid. Angèle Châtelier.
Pas de public pour cette 36e édition des Victoires de la Musique. Pourtant, c'est bien les concerts, le live, qui seront mis en avant, avec des magnétos qui nous remémoreront les festivals, la foule et des prestations en direct, comme celle de Jean-Louis Aubert, président d'honneur, qui ouvrira la cérémonie, laissant place ensuite à Isult, Pomme, Benjamin Biolay, Eddy de Préto, dans une salle réaménagée pour l'occasion, ce que confie Romain Vivien, président des Victoires.
On a réhabillé la salle en mettant l'orchestre dans la fosse. Donc du coup, lui, on va beaucoup plus le voir. C'est toujours de la musique live. Ça va être le fil rouge de l'émission pour envoyer ce message d'espoir et puis dire au public qu'ils seront bientôt de retour sur scène et qu'il faudra être là et qu'on compte sur eux pour être là.
En attendant, 2 artistes de prestige seront présents. Étienne Dao pour une prestation et Jane Birkin qui recevra une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Et puis la disparition...
Pardonnez-moi, juste la scène musicale à Boulogne-Billancourt, évidemment.
Pas à Paris. On a appris la disparition du pianiste Chick Corea, légende américaine du jazz, décédé mardi à 79 ans d'une forme rare de cancer. On écoute un extrait de l'un de ses grands classiques, 500 Miles High.
ça swing.
Merci Sophie Echen, ces quelques notes de piano pour terminer le journal de 7h30 sur Europe 1. Et puis tiens, un autre piano.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les bains.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson de Benjamin Biolay, trois fois nommée aux Victoires de la musique ce soir. On va parler de musique, on va en écouter le tête-à-tête Europe Matin avec Biolay dans un tout petit instant. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, moi aussi je vais vous parler de musique, je suis d'humeur nostalgique ce matin, on retourne dans les années 90 et je vous en veux Mathieu.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, la touche âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je vous cache pas que je suis plutôt déçu ce matin.
Ah bon ?
Je vous ai laissé plusieurs chances, j'ai attendu, j'ai laissé passer plusieurs jours. Lundi, j'ai rien dit. Mardi, j'ai pris sur moi. Mercredi, j'ai commencé à me poser des questions. Hier, je bouillais tout en me disant naïvement, bah si, il va bien finir par en parler. Aujourd'hui, vendredi 7h40, je dois me rendre à l'évidence, vous n'en parlerez donc pas. Non, ça vous dit rien ? Ah, ces journalistes déconnectés des réalités. Ah, ça pour recevoir le PDG de la Paprec, il y a du monde, hein, ou je sais pas quoi, la COGIP. Enfin, mais pour aborder les vrais sujets, il n'y a plus personne. Le chanteur de Carapicho est mort, Mathieu. Zezinho Coréal, l'interprète de Tic Tic Tac, l'un des tubes de l'été 96, nous a quittés samedi, quelques heures après Screech de Sauvé par le Gong,
oui.
Et une poignée de jours. Avant les jouets en plastique du Happy Meal, avec leur disparition, c'est une part de mon enfance qui s'envole, une part de la de votre jeunesse, disons jeunesse, Mathieu. Ah, les années 90, c'était quand même autre chose que ce merdier. On n'était pas une génération sacrifiée, nous, on était la génération Minicum, la Minicum génération, champion du monde de foot pour la première fois. On était mignons avec nos suites Waikiki, Walkman vissés sur les oreilles à écouter les boys bands ou Bailando de Paradisio, épargnés de messages de prévention, manger, bouger, 5 fruits et légumes, gestes barrières, on s'en foutait de tout ça. On jouait dans des écoles bourrées d'amiante avec des structures en fer rouillé. Le seul gel qu'on utilisait, c'était du fixation extrême pour faire tenir la houppette ou faire des pics. La question qu'on se posait avant les vacances, c'était pas est-ce qu'on va avoir le droit de partir. Mais quel sera le tube de l'été? Et surtout, qui va gagner entre Dax et Mont-de-Marsan sur l'épreuve du ventre-église d'Interville? Les primes démarraient à 20h30, pas 21h20,
mais
20h30.
Oui, c'est vrai.
Il n'y avait pas TikTok, on s'occupait autrement. Savoir écrire soleil avec notre calculette, ça suffisait à nous rendre heureux. Ou Elbez, pour les plus audacieux. Gagner de l'argent à la télé, ça se méritait. Fallait estimer le prix d'une vitrine sans faire tomber un tyrolien. Ah, et ça avait quand même plus de panache qu'envoyer un SMS pour dire quelle émission on est en train de regarder. Ah, quelle époque. Le présentateur du 20h la première chaîne d'Europe pouvait bidonner une interview de Fidel Castro, mais le lendemain, il était toujours en poste. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour dire du mal des gens, c'était une mission. Ça prenait plus de 3 secondes et un tweet. Fallait pianoter sur des 36-15 ou se connecter sur l'internet en s'assurant que personne ne téléphone sur le fixe en même temps. Se rendre sur un forum et au bout de 30 minutes, pouvoir enfin poster son message. Internet, c'était payant à la minute. Donc, fallait vraiment avoir envie de poster son « Ah, ils sont tous très mal coiffés dans la matinale d'Europe 1, hein ?» Les scandales politiques avaient de la gueule. C'était pas du lissage brésilien. On parlait de détournement de fonds, des frais de bouche, de faire voter des morts. Et puis surtout, surtout, Corona, on le subissait pas. On dansait dessus. Oh, la dance. Ah, c'était bon, les années 90. Ah, allô, Leonardo speaking. Oui. J'ai décroché. Oui, je sais, je suis en train de devenir un vieux con. Non, mais je dis pas que c'était mieux avant. Mais vu tout ce qui se passe en ce moment, je serais pas contre un bol de Smax devant Albert le 5e mousquetaire. Allez, à ciao, bon week-end.
Très bon week-end à vous. Merci, merci mille fois. C'est le moment de souvenir, Bertrand Chameroy. On vous retrouve aussi à 10h avec Philippe Vandel pour Culture Média. 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Les salles de concert sont fermées, les produits culturels pas toujours valorisés. Et dans ce contexte, la cérémonie des Victoires de la musique ce soir. Mon invité fait figure de favori, nommé 3 fois avec son album Grand Prix, meilleure vente en 2020, ce matin sur Europe 1, Benjamin Biolay.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Benjamin Biolay.
Bonjour.
Sur la scène des Victoires de la musique ce soir, vous allez jouer Benjamin Biolay avec peut-être quelques surprises. Alors c'est important, hein, même si c'est la télé, même si c'est une cérémonie, c'est important d'être sur scène à nouveau, de jouer en live.
Ah ouais, c'est toujours très émouvant, ça devient quelque chose de tellement rare que c'est même assez vertigineux de voir tout ce monde, de voir tous les musiciens, les techniciens, l'orchestre qui est là aux Victoires de la musique. Ça rappelle la vie qui nous manque tant et c'est très émouvant.
Vous êtes nommé 3 fois aux Victoires, l'un des favoris. Aujourd'hui, vous êtes arrivé, Benjamin Biolay. Quand vous arrivez aux Victoires de la musique, c'est en patron de la chanson française, comme des Bachung à une époque, M plus récemment.
C'est gentil de me comparer à lui. Non, bah, pas en patron. Non, non, il y a plein de gens qui ont été victorieux. Je pense que le patron des Victoires en termes de prix, je pense que c'est Mathieu Chédid maintenant et tout. Donc il y a quand même beaucoup de gens ont grandi un peu. Donc il y a un moment où on prend la place des grands, si j'ose dire, mais on n'est pas les patrons, non.
Alors quand on parle des grands, justement, de la chanson, vous concernant, il y a la filiation artistique avec Gainsbourg qui revient sans cesse. J'insiste pas, mais quand on vous parle maintenant d'une ressemblance avec Serge Gainsbourg, vous répondez par une question, lequel ?
Oui, c'est pas faux. Lequel, en fait ? Parce qu'il y a, il est plusieurs, et même son œuvre est protéiforme. C'est quelqu'un qui a fait une discographie qui est assez exemplaire, qui est assez étonnante. Mais moi, plus ça va, plus j'ose revendiquer le fait que, c'est vrai, l'album Melody Nelson, ça a changé ma vie, quoi. Mmh. Déjà, je me suis vu chanter en français alors que je n'imaginais pas pouvoir le faire forcément avant. Et je ne sais pas, c'était comme si j'avais découvert tout un monde, en fait.
Oui, oui, parce que ce n'était pas forcément la chanson, votre truc, à l'origine. Je vous cite. Hein. J'ai des souvenirs de car scolaire m'amenant de Villefranche-sur-Saône à Lyon, au petit matin, avec le chauffeur qui écoutait en boucle Radio Nostalgie. J'avais développé, à cause de cela, un rejet de la chanson française.
Oui, c'est possible que ce soit très, très conjoncturel, très lié à la situation que je vivais. Je devais me lever vers 5h du matin, tous les matins, pour aller... Au lycée à Lyon, et c'est vrai que ce car, il faisait froid, il faisait nuit, et les chansons qui passaient, je les assimilais à mon quotidien qui était un peu dur. Et du coup, j'ai développé une sorte, ouais, peut-être de. Pas d'aversion, mais de distance avec la chanson française. Et récemment, ça a changé, en fait.
Grand prix, vous dites de cet album, votre dernier album, que c'est un album rock avec une sensibilité féminine. Mais j'aimerais, pour aller plus loin, Benjamin Biolay, que vous m'expliquiez cette phrase de vous. Je déplore que viril soit un adjectif essentiellement masculin.
Oh, j'ai dû dire. J'ai vraiment dit ça ?
Ouais, c'était dans Le Monde au mois de juin.
Pff, des fois, je dis de ces conneries énormes. Je n'arrive même pas à commenter cette phrase. Je me fatigue.
Le grand public ne le sait pas forcément. Avant d'être connu comme chanteur, votre premier coup, si j'ose dire, c'est Jardin d'hiver, la chanson interprétée par Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des théières.
Aujourd'hui, vous continuez à écrire pour d'autres, Benjamin Biolay. Qu'est-ce qui fait, quand on a votre succès, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire pour d'autres voix, qu'on est inspiré par d'autres interprètes ?
Moi, c'est vraiment ce que vous venez de décrire, ces voix, déjà, des voix qui sont toutes différentes. Et puis, c'est aussi vachement lié à la personnalité des dites personnes. Quoi. C'est vraiment... J'ai collaboré avec Calogero, dont j'adore la voix, et c'est un vrai plaisir de l'entendre chanter mes textes. Avec sa voix à lui, qui est très différente de la mienne.
Et vous aimez chanter les autres, hein. Il y a cet album de reprise de Trenet, mais régulièrement, vous révisez les classiques. Alors oui, le confinement, ça a aidé sur les réseaux sociaux, mais encore Balavoine sur le dernier album.
Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoile sur les rochers.
Ouais, c'est assez nouveau, moi, dans ma vie. Avant, je pensais que c'était pas quelque chose qui m'intéressait que de visiter les chansons des autres. Et en fait, on apprend tellement sur les autres et sur soi-même en faisant ça que c'est un exercice que je trouve assez fascinant, en fait.
Ouais.
Quand on reprend les chansons des autres, il y a un moment où on a envie de se remettre soi-même, de composer, c'est assez fort.
Ah oui.
Et il y a des moments où ça a besoin d'être un peu nourri, ouais. Et ça fait partie d'une nourriture que je trouve très saine.
Une nourriture saine, oui. Je crois que vous avez été assez agacé, hein, par le débat produits essentiels, non essentiels, la disparition de la culture des rayons en plus de la fermeture des salles.
Ouais, moi, vous savez, je suis un peu quoi, un peu interdit, un peu encore un peu stupéfait de tout ce qui se passe et de la façon dont effectivement les acteurs du monde culturel ont été traités dans leur grande majorité. D'adjectifs comme non essentiels, substituables, tout ça, des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Je trouve que notre ministre de tutelle est un peu absente, sauf pour nous rabrouer quand on dit des bêtises, mais bon, on n'a pas besoin de ministre pour comprendre qu'on dit des conneries. Non, ce serait un long débat que j'aimerais avoir un jour.
Vous aimeriez qu'on organise ça sur Europe 1 un matin, vous, Madame Bachelot, un débat ?
Oui, oui, tout particulièrement, oui, avec en l'occurrence Madame Bachelot, parce que c'est la ministre de la Culture, ouais, moi, je serais tout à fait favorable.
L'invitation est lancée alors ?
une antenne un peu ouverte où on puisse se parler, enfin au moins se parler. On est tout à fait conscient qu'il y a une pandémie, que c'est catastrophique, qu'il y a 80 000 morts, comme elle l'a rappelé à M. Pierre Ninet. Ce n'était pas l'objet de la démarche de M. Ninet d'être comme ça rabroué parce qu'il expliquait la vie de tous les artistes et tous les gens qui aiment la culture. C'est-à-dire que voilà, ça fait 100 jours, un peu plus, qu'on est au pain sec, c'est pas rien. Ça ne mérite pas d'être pris de volée comme ça à base de chiffres.
Après, ces cérémonies comme les victoires ce soir, ça sert souvent de tribune. On peut imaginer que le gouvernement sera interpellé ce soir.
J'imagine qu'il y aura des messages pour le gouvernement, mais vous savez, ça fait partie d'un grand happening télévisuel dont je ne suis pas forcément friand, quoi. Parce que là, on est là pour célébrer ce qui nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose dans la musique. Alors, en ce moment, ça va s'arranger, bien sûr, je suis assez optimiste dans le fond. Mais alors voilà, écrire un discours marrant et puis alpaguer quelqu'un en direct à la télévision française, ça c'est tout, ça fait partie un peu du folklore, des remises de prix. Là, quand je dis j'aimerais un débat ouvert, je trouverais ça plus intéressant, comme si on travaillait, comme une réunion technique, mais pourquoi pas médiatiser, ce serait bien.
Ah, moi j'ai très envie de l'organiser, hein. L'invitation est lancée. Au mois de décembre, vous avez réédité Grand Prix, votre album en tête des ventes en 2020. Hein. Vous l'avez réédité avec 5 inédits, dont le morceau Je reviendrai.
Je reviendrai voir l'endroit où j'ai grandi naguère, et je me tiendrai bien droit, comme le suggérait ma mère.
Vous aimez la nostalgie, enfin je sais pas si c'est le bon mot, mais sans être dans le spleen, vous bercez du passé.
Ah si, c'est le bon mot, parce que la nostalgie c'est beau, il faut pas se mentir, il y a des sortes de nostalgie bien heureuse. C'est beau de repenser aux gens qu'on ne peut plus voir parce qu'ils sont plus là, etc. Ou aux moments qu'on trouvait précieux, ou des moments qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et non, moi je suis assez client de ça et je trouve ça pas triste.
Et puis non.
Hier matin, je recevais le philosophe Charles Pépin pour une réflexion sur le thème de la rencontre. Et on s'est dit qu'à la fin de cette période étrange, il y aurait des retrouvailles. Benjamin Biolay, c'est un peu ça, cette chanson. Je reviendrai aussi un témoignage du monde d'avant. On va se retrouver.
Oui, il va falloir qu'on se retrouve et ça va arriver. Oui, retrouver les... On voit plus que c'est intime, c'est proche, c'est beau. Ça a renforcé certains liens parce que peut-être on n'était pas assez soigneux avec son intimité, ses amis, sa famille. Mais on ne fréquente plus les gens dont on ne connaît pas le nom de famille. Et moi, ça me manque de ne pas dire bonjour au type du bar dont je ne connais que le prénom ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, cette vie de quartier, cette vie réelle quoi, de société qui est durement mise à l'épreuve. Donc on veut la retrouver, bien sûr.
Après les victoires de la musique, et j'en terminerai par là, on va vous retrouver sur la scène des Césars. Benjamin Biolay, vous allez diriger l'orchestre de la cérémonie.
Pareil, le cinéma a été durement éprouvé en 2020. Donc c'est une soirée où il y aura... qui va être assez particulière, mais qui dit cinéma éprouvé, dit musique de film éprouvée, et ça fait partie aussi du cinéma. La musique, c'est vraiment constitutif de ce qu'on aime dans le cinéma. Et donc, il y aura un orchestre, on va jouer live tout le long. J'avais envie de représenter un peu la musique dans cette cérémonie. Ouais.
Merci beaucoup, Benjamin Biolay.
Merci infiniment.
Et puis, bon courage hein, sur la scène ce soir, parce que vous êtes un peu refroidi, vous avez moins l'habitude, là.
On est tout rouillé.
On verra ce soir, alors. Les victoires de la musique, merci encore. Et puis, rendez-vous est pris, hein. Organisons ce débat avec Roselyne Bachelot.
Ouais, s'il vous plaît. Bah ouais, qu'on parle un peu tranquillement.
À bientôt. À bientôt, Benjamin Biolay. À ce soir sur la scène des Victoires de la musique.
Comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
7h53, Benjamin Biolay sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La campagne de vaccination se passe mieux, pas de confinement à l'horizon, le gouvernement sur un petit nuage, en tout cas pour l'instant. L'édito politique, Nicolas Béthou, à tout de suite.
Europe 1. Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Alors après votre tentative d'incursion dans le domaine de l'édito sport il y a quelques jours, voilà que vous voulez nous parler de météo et d'un rayon de soleil.
Bah oui, parce que le soleil est revenu au propre comme au figuré.
Voilà, au propre, ça c'est la météo de Laurent Cabrol.
Oui, et au figuré, c'est ce petit rayon qui éclaire depuis quelques jours le visage des ministres avec un léger sourire caché, bien sûr, derrière les masques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques temps, le Covid ne fait plus systématiquement la une des journaux. Par exemple, aucun grand quotidien ce matin. Alors bien sûr, il y a la neige, le froid, mais côté Covid, on constate aussi une sérieuse accalmie. Le nombre des tests positifs, des hospitalisations et des réanimations est stable ou même en très légère décrue. Et on commence à entendre de la part du gouvernement de timides mais réels messages positifs. Olivier Véran, comme Gabriel Attal, assume l'idée qu'il pourrait ne plus jamais y avoir de confinement. Jean Castex a séché hier soir la conférence de presse hebdomadaire qui servait jusqu'ici à remobiliser les Français et à leur dire que le pire était peut-être devant nous.
Bon, mais les chiffres restent assez élevés tout de même.
Oui, mais beaucoup moins que ce qui avait été annoncé par tous ceux médecins et scientifiques qui parlaient de l'imminence de la troisième vague ou de la tornade des variants. Et du côté de la majorité, eh ben, on ne se prive pas de le souligner. Les médecins qui appelaient à un reconfinement se sont trompés. Exactement comme ceux, ce sont les mêmes d'ailleurs, qui, lors du deuxième confinement, avaient alerté sur l'arrivée en réanimation de 9000 patients embolie hospitalière garantie. Ça ne s'est pas passé en novembre, ça ne s'est pas passé en février, et tout ça donne en tout cas raison à Emmanuel Macron. Le président avait déjà précipité la sortie du confinement l'an dernier, en mai, et il a à nouveau imposé au monde médical une décision politique avec le refus du reconfinement il y a 15 jours. Il a en fait repris la main.
Et donc, ses partisans applaudissent.
Exactement, en espérant bien sûr que les variants, comme en Moselle, ne viendront pas gâcher ce moment et que le gouvernement pourra enfin parler d'autre chose, d'égalité des chances par exemple, ou de la nouvelle législation sur l'inceste. Les plus optimistes au sein de la majorité en viennent même à suggérer que nous entrons dans une nouvelle période, celle de la vie avec le virus, dans un environnement où de plus en plus de Français se feront vacciner. À l'appui de leur thèse, cette arrivée des tests salivaires que l'on pourra même un jour pratiquer chez soi comme une banale prise de température. Alors seulement, le chef de l'État pourra commencer à essayer de récolter les dividendes de son audace de la fin du mois de janvier. Bon, j'admets que c'est encore une prévision aussi aléatoire que peut l'être la météo.
Votre édito tous les matins sur Europe 1. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Merci beaucoup. Restez avec nous, Nicolas. 7h57. Nicolas Canteloup, à présent, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et Jean Castex voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour, monsieur Béliard, vous êtes en forme.
Grande forme.
Depuis tout à l'heure, chez Bétou, Cabrol. Et bonjour à Gabriel Attal, Gabriel qui nous écoute sans doute dans le taxi. À qui j'ai envie de dire, cher Gabriel, tu passes beaucoup trop de temps sur Europe 1. Ça fait combien de fois que tu y retournes depuis le début de l'année, hein? 9 fois, quoi, 10 fois? Mais qu'est-ce qui t'attire tant dans cette radio? Tu veux y postuler peut-être? Tu ne veux plus travailler au gouvernement? Qu'est-ce qui te plairait? De faire un duo comique avec M. Chameroy? Ou de donner des conseils pour épandre du fumier comme Mme Agostini? Il va falloir que nous ayons une petite conversation, cher Gabriel.
Eh bien merci, Monsieur le Premier ministre. Alors on me signale que Francis Cabrel voulait rajouter quelque chose.
C'est encore Gabriel Attal chez Sonia. Ça continue encore et encore. C'est toujours Attal, d'accord, d'accord.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale avec Gabriel Attal. Aussi, cette opération, je le souligne à nouveau, Europe 1 solidaire avec la jeunesse. Nous allons en reparler, bien sûr. Merci Nicolas et à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. Laurent Cabrol est avec nous pour l'édito politique, puisqu'apparemment ouais. Nicolas Bétou se lance dans la météo.
On avait dit au sens propre et pas au sens figuré. Alors, on change de côté, si vous voulez. Hier, il y avait énormément de soleil, enfin, il y avait énormément, il y avait un petit peu de soleil sur la moitié nord, mais surtout pas mal d'intempéries. Bien aujourd'hui, il y aura beaucoup de soleil sur la moitié nord. Au fil des heures, le soleil va s'imposer, y compris sur la capitale, mais avec des températures glaciales comme elles le sont et comme elles le furent. Sur la moitié sud, c'est l'inverse. De la pluie dans le tout le sud-ouest dans le courant de la journée. et surtout cet après-midi sur la région Rhône-Alpes, des chutes de neige importantes. À Lyon, on espère ou on craint entre 5 et 10 cm. Voilà pour l'essentiel. Sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes et le Massif central, là nous aurons des pluies verglaçantes. Attention, soyons vigilants, et puis avec des vigilances rouges sur la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre. Ce sont les quatre départements les plus dangereux à l'heure où nous parlons. Les températures maximales seront presque identiques à celles d'hier, en dépit du changement de côté, comme je disais tout à l'heure, entre moins 2 et plus 14 degrés, le grand écart. Et en ce moment, il fait entre moins 17 et moins 17 et plus 5. Allez.
Oui. Une grosse fourchette. Sous abri. Moins 17 et plus 5.
Sous abri. Hein.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Ouais.
Merci.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.